tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Usé par le Brexit, sans doute autant que par les critiques incessantes dont elle aura fait l'objet au sein de son propre parti, Theresa May a formellement démissionné ce matin. En clair, elle ne dirigera plus le parti conservateur, mais restera en fonction à la tête du gouvernement jusqu'à la désignation de son successeur.
Au moment où les relations entre Moscou et les Occidentaux se dégradent à la faveur de multiples crises, la Russie et la Chine semblent bien décidées à faire étalage de leur grande complicité.
Et notamment de leurs étroites relations économiques à l'occasion du forum de Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Principal rendez-vous des affaires en Russie.
Du plastique partout, jusque dans le corps des baleines.
Le rapport du WWF publié aujourd'hui fait état de l'ampleur de la pollution. 600 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetés chaque année en mer Méditerranée. En France, l'État a annoncé ce matin qu'il allait saisir la justice après avoir appris que 1 500 tonnes de faux steaks hachés surgelés avaient été vendus à des associations caritatives depuis l'été dernier. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Pascal Boniface, à l'occasion de l'ouverture ce soir en France du mondial de foot féminin. Avec lui, on parlera géopolitique du ballon rond. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec une géopolitique amoureuse à l'ère du numérique, ce que les sites de rencontres, internet et les réseaux ont fait à notre vie amoureuse et sexuelle. Comment ils ont modifié nos pratiques. On en parlera avec nos deux invités, une sociologue et un philosophe, Marie Bergström et Richard Memetaux.
Merci et à tout à l'heure. Faute d'avoir réussi à détricoter plus de 40 ans de liens avec l'Union européenne, mais aussi d'avoir su rallier les Britanniques derrière une vision du Brexit susceptible de combler le fossé entre partisans et opposants à ce divorce historique, Theresa May a donc démissionné ce matin. Une vraie fausse démission en réalité, car si elle a effectivement quitté la tête du Parti conservateur, en revanche, la Première ministre restera en poste au 10 Downing Street pour expédier les affaires courantes, tant que celui ou celle qui aura la lourde tâche de réussir là où elle a échoué n'aura pas été désigné. Ou dit autrement, de la même manière que le Royaume-Uni n'a toujours pas franchi le seuil qui le fera quitter définitivement l'UE, Theresa May n'a pas encore tout à fait refermé la porte qu'elle a pourtant choisi de claquer derrière elle. Alors, le Parti conservateur espère désigner son nouveau chef et donc futur Premier ministre avant la fin juillet. Cette semaine, les Tories ont d'ailleurs adopté de nouvelles règles pour accélérer la procédure, mais aussi resserrer le nombre de prétendants. 11 candidats sont actuellement en lice. Les précisions à Londres de notre correspondant Antoine Gignot.
Le mieux placé pour rassembler les électeurs conservateurs, c'est Boris Johnson. L'ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères prône une sortie rapide de l'Union européenne. 6 électeurs de droite sur 10 le verraient d'un bon œil devenir Premier ministre. En comparaison, ils ne sont que 2 sur 10 à soutenir Michael Gove et Savid Javid, respectivement ministres de l'Environnement et de la Justice, et tous les deux candidats. Parmi les autres, beaucoup d'anciens membres du gouvernement. Esther McVie, la plus radicale, a démissionné l'an dernier. Elle réclame une rupture totale avec l'Union européenne, tout comme Andrea Leadsom, anciennement chargé des relations avec le Parlement et qui veut quitter le marché unique et l'union douanière. D'autres sont moins catégoriques, voire très pro-européens, à l'image de Sam Gyimah, ancien secrétaire d'État aux universités et qui veut organiser un second référendum. S'y ajoutent quelques candidatures atypiques, comme celle de Rory Stewart, ancien diplomate au Monténégro, puis administrateur adjoint d'une province en Irak, tuteur des princes William et Harry. Il a traversé à pied l'Iran, le Népal, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Inde, seul la majeure partie du temps.
Et puis toujours s'agissant du Royaume-Uni, j'ajoute que le parti de Nigel Farage, fort de son succès aux européennes, espérait bien poursuivre sur sa lancée hier à l'occasion d'une élection législative partielle dans l'est de l'Angleterre. En vain, la nouvelle formation de l'eurosceptique d'extrême droite s'est finalement inclinée face au parti travailliste, échouant ainsi à remporter son premier siège au Parlement britannique avec près de 29% des voix. Le parti populiste des Brexiteurs arrive en deuxième position, juste derrière le Labour, 31%, mais loin en revanche de les Tories, qui eux ne recueillent que 21% des suffrages, des résultats qui viennent décidément couronner un record d'échecs pour le parti au pouvoir. Menacé de droits de douane, Mexico tente à présent d'amadouer Washington, ou qu'en face au chantage du président américain, lequel entend appliquer dès lundi une taxe de 5% sur tous les biens provenant du Mexique, si celui-ci ne réduit pas le flux de migrants d'Amérique centrale vers les États-Unis. Les autorités mexicaines multiplient les initiatives coercitives, arrestations de migrants et présence policière renforcée. 6 000 membres de sa garde nationale vont être déployés sur la frontière avec les États-Unis afin de lutter contre l'immigration clandestine. Le Mexique se serait par ailleurs engagé à construire davantage de centres de rétention et de points de contrôle pour dissuader les migrants. Quand Moscou et Pékin font étalage de leurs étroites relations économiques face à Washington, certains y verront peut-être aussi une forme de chantage, quoi qu'il en soit. Et en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, le président chinois Xi Jinping s'est vu en effet dérouler le tapis rouge ce matin au Forum économique de Saint-Pétersbourg, le principal rendez-vous des affaires en Russie. Alors même si l'Union européenne reste encore le premier investisseur en Russie, loin devant les États-Unis et la Chine, dans le contexte actuel de fortes tensions avec les Occidentaux, c'est vrai que les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin ne cessent d'augmenter. Ils ont même atteint l'an dernier un niveau record à plus de 100 milliards de dollars. Un rapprochement évidemment renforcé qui plus est par les mesures prises cette fois-ci par les États-Unis à l'encontre de la Russie et de la Chine sous forme de sanctions ou de guerres commerciales. Pour autant, et même si l'accroissement des échanges entre Russes et Chinois peut être vu comme une forme de réponse aux sanctions occidentales pour Moscou, il en résulte tout de même certaines limites. C'est une correspondance signée Claude Brouillot.
Sur la seule première journée de visite de Xi Jinping, la délégation chinoise a signé une vingtaine de nouveaux traités d'échange bilatéraux. Et pour la seule année 2018, le volume de ces échanges russo-chinois a bondi de plus de 25% à 108 milliards d'euros, encore derrière l'Union européenne, mais l'écart se réduit sensiblement. Dans cette stratégie du gagnant-gagnant, le déséquilibre pourtant est réel. À l'exception de ses exportations d'hydrocarbures, la Russie n'a que peu à offrir au regard des capacités d'investissement de technologies, d'infrastructures mises dans la balance par la Chine. Un exemple concret, sans les capitaux chinois à hauteur de 30%, les Russes auraient eu beaucoup de difficultés à développer au nord de la Sibérie le terminal géant méthanier de Yamal qui permet, avec le réchauffement climatique, l'exploitation d'une nouvelle route plus rentable vers l'Asie en général et la Chine en particulier. Mais même gênés par les sanctions occidentales, les Russes restent pragmatiques et n'iront pas au-delà dans le risque de dépendance vis-à-vis de Pékin. Les effets d'annonce, comme le développement du paiement de leurs échanges dans leur monnaie nationale à l'écart du dollar, ne pèsent guère aujourd'hui à l'échelle mondiale. Il s'agit surtout d'afficher un front commun économique face aux États-Unis, en restant conscient, côté russe surtout, de ses limites.
En Mauritanie, la campagne officielle pour l'élection présidentielle s'est ouverte aujourd'hui à 2 semaines d'un scrutin censé marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu, en clair consolider la démocratie. Un scrutin dont les préparatifs inquiètent tout de même l'opposition qui dénonce notamment la composition de la commission électorale dont elle juge les membres trop proches du pouvoir. En Algérie, ce 16e vendredi consécutif de contestation aujourd'hui sera le premier en revanche depuis l'annulation par le Conseil constitutionnel de la présidentielle du 4 juillet. Hier, à la veille donc de ces nouvelles manifestations contre le régime, le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, a appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue. Les Libériens sont eux aussi attendus en masse aujourd'hui dans les rues de la capitale Monrovia pour réclamer de meilleures conditions de vie. Des manifestations en forme de premier test d'envergure pour l'ex-star du foot devenu président, George Weah, élu fin 2017 sur un programme de résorption de la pauvreté et de la lutte contre la corruption, mais surtout dans un pays qui reste hanté par une guerre civil qui a fait quelques 250 000 morts de 1989 à 2003. Certains s'inquiètent déjà d'une possible résurgence des violences. Direction le Soudan à présent, où depuis que des soldats ont massacré plus d'une centaine de civils lundi dernier, la capitale Khartoum vit au ralenti. Les paramilitaires sont encore bien visibles dans les rues de la ville et s'en prennent régulièrement aux habitants. Du coup, de nombreux magasins sont désormais fermés. Notre confrère Sébastien Nemeth, correspondant de RFI pour France Culture, a pu se rendre dans l'un des rares supermarchés ouvert.
Affluence dans cette supérette de Khartoum. Après le massacre de lundi et plusieurs jours de violence dans la capitale, les gérants ont finalement rouvert Mohamed Hassan.
J'avais fermé lundi et mardi parce qu'un massacre était en cours. Ça tirait de partout. J'ai ouvert aujourd'hui parce que des clients m'ont appelé disant qu'ils n'avaient nulle part où aller. Mais les habitués sont peu nombreux. Ils ont encore peur de sortir. Ceux qui viennent sont de passage. Ils s'arrêtent parce qu'ils trouvent enfin un endroit où acheter à manger.
Parmi les clients, certains ont des listes de courses impressionnantes. Tariq Ibrahim a acheté 20 kilos de farine, beaucoup de sucre, de viande surgelée, de pain et d'huile. Après les tensions des derniers jours, il a voulu prendre ses précautions.
On a peur que la violence éclate à nouveau. et entraîne une fermeture des magasins. Je dois faire des réserves. Ça fait longtemps qu'on subit des pénuries de billets de banque. On dépend des cartes, mais elles ne fonctionnent plus parce qu'Internet est coupé depuis lundi. Et ce magasin a de la connexion au débit. Ma carte marche ici. Et ma femme me l'a demandé. Je ne peux pas lui désobéir.
Une situation qui pénalise aussi les marchés classiques. À cause du danger qui rôde dans les rues, les grossistes peinent à venir vendre leurs marchandises et les clients potentiels, eux, n'osent plus sortir de chez eux.
J'ajoute que ce matin, le Premier ministre éthiopien est arrivé à Khartoum pour y tenter une médiation entre le Conseil militaire de transition et l'opposition. C'est ce qu'on appelle une décharge à ciel ouvert. 600 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetées chaque année en Méditerranée par 22 pays, soit l'équivalent de 34 000 bouteilles de plastique par minute déversées dans la mer. Voilà ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par le WWF. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Alors, cela fait plusieurs années déjà en réalité que les ONG poussent des cris d'alarme pour endiguer cette marée de plastique et surtout ses impacts sur l'écosystème. Est-ce qu'il faut en déduire, Véronique, que rien n'est fait pour stopper ces rejets de plastique en Méditerranée?
Ça signifie que chaque pays n'en fait toujours pas assez face à un fléau mondial. Aucun pays n'est exempt de responsabilité dans la pollution plastique en Méditerranée, mer particulièrement vulnérable car quasi fermée. Trop de plastique produit, mal recyclé ou non traité en fin de vie dans ces pays. Le rapport du WWF révèle que les 22 pays du pourtour méditerranéen génèrent 24 millions de tonnes de déchets plastiques. 42% sont enterrés, 14% incinérés et seulement 16% sont recyclés. 16% des 24 millions de tonnes, c'est très peu. Les 28% restants sont gérés de manière complètement inefficace, non collectés, en décharge non contrôlés ou mis en décharge à ciel ouvert. Cela finit par faire, si vous l'avez dit, 600 000 tonnes de plastique qui finissent en mer Méditerranée et s'y accumulent. Trois pays à eux seuls rejettent les deux tiers de ces déchets plastiques en Méditerranée, la Turquie, l'Égypte et l'Italie.
Alors la France, elle ne fait pas partie des plus mauvais élèves en termes de rejet de déchets plastiques. En revanche, le WWF pointe du doigt la responsabilité de la France en indiquant qu'elle est aujourd'hui le plus important producteur de déchets plastiques de la région.
Alors chaque Français a produit en 2016 67 kilos de plastique par personne et seulement 22% de ces déchets sont recyclés près de la Méditerranée. Un taux plus faible que l'Italie, l'Espagne, Israël ou la Slovénie. Les activités côtières représentent le gros de cette pollution plastique en France. Activités touristiques et de loisirs, doublées donc d'une mauvaise gestion de ces déchets. Cela a un coût environnemental mais aussi économique. Isabelle Autissier est la directrice du WWF.
Ça coûte parce qu'il y a beaucoup d'activités qui nécessitent que la mer soit propre. Le tourisme, bien sûr, mais on pourrait parler des élevages marins, on pourrait parler de la pêche, tout simplement. Si vous traînez un chalut dans la mer, vous allez quand même ramener beaucoup de plastique. Petit à petit, ça va disqualifier certaines activités économiques.
Et la pollution plastique en Méditerranée fait perdre 73 millions d'euros aux 22 États côtiers chaque année.
Merci Véronique Robérot. Quand la filière de la viande française se retrouve une nouvelle fois en proie à une fraude de grande ampleur, 780 tonnes de faux steaks hachés fabriqués en Pologne ont été distribués par une entreprise française à des associations d'aide aux plus démunis. C'est ce qu'on a appris ce matin de la direction de la répression des fraudes. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Alors précisons tout de suite que leur consommation ne présentait pas de risque pour la santé. En revanche, dans la liste d'ingrédients de ces faux steaks hachés dont la distribution a été mise immédiatement stoppé. On trouve notamment des excès de gras et des tissus de mauvaise qualité.
Oui, il faut savoir qu'en France, quatre associations bénéficient d'un programme spécial de l'Europe, le Fonds européen d'aide des plus démunis. Et chaque année, les pouvoirs publics lancent des appels d'offres pour la fabrication de 27 produits qui sont ensuite redistribués à 5 millions de personnes en difficulté. 27 produits dont les steaks hachés en question fournis par une seule et même entreprise française qui s'approvisionnait auprès d'un industriel polonais. Et c'est la vigilance des bénévoles qui a permis de mettre en lumière la fraude, explique Sébastien Tolo du Secours Populaire.
Donc à la fois le visuel, la texture du produit, plus quelques tests gustatifs ont montré tout de suite que ça correspondait absolument pas au cahier des charges.
Est-ce que des gens en ont mangé quand même ou pas?
On est dans le cadre d'une fraude avérée, donc le principe de la fraude c'est qu'elle ne se fâche pas. Donc heureusement elle a été trouvée mais pas suffisamment à temps et il y a eu sur un produit qu'on a quand même chaque année, on a eu à peu près 40% des produits de steak haché, enfin du steak haché pour le Secours Populaire sur le plan national qui ont été distribués. Vraiment, les bénévoles se plient à des règles administratives très très contraignantes. Et là, se retrouver avec une entreprise qui répond à un appel d'offres de marché public avec des fonds publics pour avoir une fraude caractérisée qui aurait pu entraîner des conséquences sanitaires, c'est effectivement inadmissible.
Les analyses microbiologiques montrent qu'il n'y a pas de danger pour la santé des personnes qui auraient consommé les steaks, assure la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle va maintenant transmettre le dossier à la justice pour des faits susceptibles d'être qualifiés de tromperie en bande organisée, avec pour les associations un problème supplémentaire, celui du coût du stockage des steaks restants, mais aussi de la pénurie engendrée sur le produit.
Merci Florence Sturm. C'était l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. L'Assemblée nationale a voté hier soir un assouplissement des 80 km/h sur certaines routes secondaires. Au terme d'un débat nourri, les députés ont adopté à main levée l'article du projet de loi mobilité qui prévoit de permettre aux présidents de conseils départementaux, mais aussi aux maires, de déroger à la limitation. Édouard Philippe ambitionne de constituer une équipe de France des eurodéputés et visiblement pour le Premier ministre n'est pas encore gagné. Le gouvernement a invité aujourd'hui les 79 eurodéputés français élus le 26 mai dernier pour une journée d'échange. La rencontre a débuté ce matin à 9h sans les Verts et sans les Insoumis qui avaient prévenu qu'ils boycotteraient cette journée. Quant aux autres qui ont décidé de jouer le jeu au moins en partie, eh bien on ne peut pas dire, Rosalie Lafarge, qu'ils se soient montrés très convaincu par l'exercice.
Cette journée de travail, Édouard Philippe est venu la lancer. Le Premier ministre s'est fendu de quelques mots devant les eurodéputés présents avant de quitter rapidement les lieux.
J'ai été heureux de pouvoir échanger avec ces nouveaux parlementaires. Moi, les accueillant et les félicitant, exprimant un certain nombre de convictions qui sont les leurs.
On n'en saura pas plus, en tout cas de sa part, mais quelques minutes après, les élus du Rassemblement National présents lors du discours sortent à leur tour, Jordan Bardella en tête.
On a fait un certain nombre de propositions qui pourraient être évidemment transcourantes. D'abord le refus de voir céder le siège du Parlement européen et de le voir délocalisé autre qu'à Strasbourg. Et ensuite la mise en place d'un protectionnisme économique, sanitaire, social, environnemental pour protéger aujourd'hui les Français de la concurrence déloyale. Le refus de toute nouvelle forme d'élargissement. J'espère que nous pourrons faire cause commune sur ces questions. Maintenant, au-delà, c'est vrai que la ministre des Affaires européennes nous a dit qu'elle réunissait aujourd'hui une équipe de France. Et je lui ai rappelé que pour pouvoir faire équipe, il faut avoir la même stratégie, la même tactique, les mêmes objectifs. Or, nous ne le partageons pas.
Et dès lors, pas question de rester pour les différents ateliers prévus sur une bonne partie de la journée, des ateliers coordonnés par plusieurs ministres et d'anciens eurodéputés.
Nous estimons que nous n'avons pas de leçons de sciences politiques à recevoir de la part de gens, en l'occurrence, qui ont été désavoués dans les urnes il y a maintenant 15 jours.
En attendant, la leçon de sciences politiques, selon le RN, ou journée d'échange pour la majorité, se poursuit avec quelques LR, une socialiste et tous les élus LREM Modem, une équipe de France pas franchement au complet.
Cela fera partie des grands moments de l'année 2019 et surtout un moment charnière pour le sport en général et le football en particulier, longtemps associé à une culture sexiste. Le mondial de football féminin s'ouvre aujourd'hui en France. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Pascal Boniface, géopolitologue et grand passionné de ballon rond. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Thomas Larabi. Bonjour Thomas. Je rappelle, Pascal Boniface, que vous avez publié en partenariat avec l'UNESCO un rapport intitulé « Le football s'accorde au féminin ». Est-ce que cette compétition qui débute ce soir est l'occasion idéale, selon vous, de rattraper le retard médiatique sur les hommes ?
Ben, c'est vraiment en partie fait, parce qu'on a quand même l'agréable surprise de voir que tous les médias parlent de ce mondial. On parle peu souvent de sport sur France Culture, et là vous en parlez, et en fait on voit qu'il y a une mobilisation générale de la presse écrite, des radios, des télévisions. Tous les matchs seront retransmis à la télévision française, qui est quand même une première. Donc effectivement, il y a une attention médiatique et populaire qui est sans commune mesure avec aucun des autres mondiaux. C'est la 8e Coupe du Monde féminine. Jamais une Coupe du Monde n'a été suivie avec une telle ampleur.
Est-ce que ça ne manque pas d'icônes médiatiques malgré tout, de modèles? Je pense par exemple à Laure Manaudou, qui en natation, à l'époque on regardait autant la natation féminine que masculine. Pourquoi il n'y a pas cet équivalent en football?
Eh bien, on verra à la fin de la compétition, parce que pour l'instant, elle n'est pas lancée. C'est vrai que l'équipe de France féminine est quand même plus vue aujourd'hui qu'elle était auparavant, mais ses meilleures joueuses n'ont pas la notoriété de l'équipe masculine. Mais je suis à peu près persuadé, surtout si l'équipe de France fait un beau parcours, ce que tout le monde peut souhaiter, eh bien que les meilleures joueuses auront une aura. Elles commencent déjà à être connues, on les reconnaît déjà dans la rue, mais si elles vont plus loin dans la compétition, et on voit déjà que leur portrait figure dans tous les journaux avec des petites notices biographiques, et donc très certainement elles vont commencer à faire des modèles pour toutes les petites filles qui vont vouloir à la rentrée jouer au football.
La coach de l'équipe de France cette année, c'est Corinne Diacre, mais avant elle, c'était un homme. Le PSG, l'Olympique Lyonnais ont aussi des coachs hommes. Est-ce que c'est là aussi qu'il y a un peu de retard dans les fonctions de coach, mais aussi plus largement dans les sphères dirigeantes du football?
Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, la Fédération française de football et le monde du football français est quand même une exception, puisque la présidente de la Ligue du football professionnel est une femme, Nadine Boislatour. La numéro 2 de la Fédération française de football, Florence Ardoin, est une femme. Et il y a de nombreuses femmes en responsabilité. Mais vous avez raison, en termes d'entraîneurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, y compris pour les équipes féminines. Mais on peut noter que Corinne Diacre, l'actuelle sélectionneuse de l'équipe de France féminine, a auparavant dirigé l'équipe masculine de Clermont-Ferrand en seconde division.
Et comment, je parle plus des instances dirigeantes maintenant, comment on va faire finalement pour, dans ce monde un peu, avec un entre-soi très masculin, comment on va faire pour faire rentrer des femmes à ces postes?
Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, le football a été considéré comme un univers uniquement masculin, même si pendant la Première Guerre mondiale, le football féminin s'est développé, qu'il y a eu des matchs suivis par des milliers de spectateurs. Et puis, il y a eu un retour de l'ordre ensuite, lorsque les hommes sont rentrés et que les femmes ont été renvoyées à leur place traditionnelle. Dans les années 60-70, des médecins disaient que le football n'était pas adapté au corps féminin et qu'elle prenait des risques physiques à le pratiquer. Et il y a nous citons dans notre rapport, quelques exemples croquignolesques de préjugés. Ces préjugés ont maintenant disparu, mais effectivement, il doit y avoir des efforts encore en termes de gouvernance dans les différents clubs. Et là, il y a des quotas qui ont été créés et on peut penser que les choses qui commencent déjà à être corrigées vont l'être encore plus dans un proche avenir, dès la rentrée.
Alors je cite votre rapport, justement, vous dites faire rentrer les femmes dans des instances dirigeantes, c'est pas seulement un symbole, c'est aussi un enjeu social et démocratique, c'est-à-dire?
C'est-à-dire tout simplement, dans le monde du sport comme dans le monde politique ou dans le monde de l'entreprise, la parité, la place des femmes doit être grande, doit être la même que celle des hommes, mais effectivement, on peut dire qu'il y a plus de licenciés masculins que de licenciés féminins, même si les effectifs féminins augmentent beaucoup, et c'est peut-être là qu'il y a les plus grandes marges de progrès. On peut dire, en fait, grosso modo, pour le football, il y a deux marchés potentiels ou de sources de conquête, c'est la Chine en tant que pays et les femmes au niveau mondial. Et on voit, en fait, qu'il y a aujourd'hui 159 pays qui ont une équipe féminine. Il y en avait, il y a une vingtaine d'années, qu'une cinquantaine.
Vous dites aussi que le football est un accélérateur de changement social. Je pense par exemple à l'Iran. L'an dernier, il y a eu un match Espagne-Iran. C'était la première fois depuis 1979 que les Iraniennes pénétraient dans un stade. À quel point ce football est accélérateur de changement social?
Les femmes, en fait, réclament leur place. Elles disent qu'on n'a pas à les empêcher de jouer au football et on n'a pas à les empêcher d'assister à des matchs de football. Et la revendication de l'émancipation qui est portée par les femmes un peu partout dans le monde passe aussi par la reconnaissance de leur droit à pratiquer et à regarder le football.
Vous pointez du doigt également une persistance, on en parlait, de préjugés. Les femmes seraient étrangères au milieu, illégitimes, voire vues comme incompétentes. Je parle encore une fois de ces préjugés. Comment on lutte contre ça? C'est vraiment la médiatisation? C'est vraiment des interviews de Pascal Boniface sur France Culture pour retourner ça?
Il y a bien d'autres choses, je dois rester à ma place, mais c'est aussi le fait de montrer plus de matchs de football féminin, de voir un peu partout des filles jouer au football quand on se balade sur les différents terrains de France et de Navarre. C'est par une pratique effectivement beaucoup plus forte. Mais on peut penser quand même qu'aujourd'hui, ceux qui ont encore ce type de préjugés sont minoritaires et sont bien cause. Auparavant, ce type de considération passait comme une évidence. Aujourd'hui, celui qui le tient passe quand même pour un ringard qui n'a pas vraiment compris l'évolution du monde, et non seulement du sport, mais l'évolution du monde tout court.
Merci Pascal Boniface d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre rapport publié en partenariat avec l'UNESCO. Le football s'accorde au féminin. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Thomas Larabie. Avec ses ondes vaudou, il avait ouvert la musique de la Nouvelle-Orléans au rock psychédélique puis au funk. Le pianiste de blues Dr. John a succombé hier à une crise cardiaque. Il était âgé de 77 ans. Voilà, c'est donc au son de Right Place, Wrong Time que l'on terminera ce journal avec toutefois un dernier mot de météo. Le temps de cet après-midi sera agité, pluvieux et venteux. 8 départements du Grand Ouest ont été placés en vigilance orange. Seul le Sud-Est et la Corse conserveront un temps plus clément avec de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.